Nous poursuivons donc la matinée avec deux présentations. En première partie, nous accueillons Claudia Bartolomei. Claudia est diplômée de l'Université de Genève et de la HEPV. Elle enseigne au niveau de l'enseignement supérieur depuis de longues années. Elle s'occupe notamment, elle s'est toujours occupée d'enseignement et de didactique de l'allemand, langue étrangère et d'immersion, et d'enseignement bilingue. Elle est actuellement maître d'enseignement et de recherche à la section d'allemand de l'Université de Lausanne et chargée d'enseignement à la HEPV pour la didactique de l'allemand à l'école obligatoire. Claudia, c'est à toi.
Merci beaucoup. Tout le monde m'entend ? Merci. Je me permets de vous présenter une situation de lecture poétique en classe de langue 2 sous une forme un peu inhabituelle, afin de sortir de la routine de la recherche et des présentations académiques. On m'avait demandé de raconter mon expérience et j'ai pris ce mot à la lettre. Il était une fois une enseignante qui vivait dans un pays très proche. C'était le seul pays au monde qui se permettait d'avoir 26 systèmes scolaires différents, qui proposaient tous un grand examen final avant l'entrée des jeunes gens dans les hautes écoles ou la vraie vie. Pour augmenter encore la complexité de la situation, le grand examen final différait même d'une école à l'autre à l'intérieur de ces 26 systèmes. Mais les 26 systèmes scolaires avaient des éléments communs. Partout, on était fiers d'enseigner la littérature pour évaluer les compétences langagières en langues étrangères lors du grand examen final. Et partout, et fort paradoxalement, on faisait souvent fièrement la différence entre enseigner une langue et enseigner sa culture et littérature. Dans ce contexte déjà compliqué en soi, l'enseignante en question était face à un triple problème. Elle enseignait une langue plutôt mal aimée par ses élèves, tellement mal aimée qu'elle n'apparaît même pas ici dans le titre d'exposé. On l'a biffée. Elle enseignait dans une école très réputée qui préparait ses élèves pour la première fois au grand examen final, et ce, dans la seule région où il fallait lire pas un ou deux ouvrages littéraires par année scolaire, mais même trois ou quatre. Elle était face à la seule classe réputée faible dans cette école avec beaucoup de jeunes hommes qui n'aiment ni lire des ouvrages littéraires ni la langue qu'elle enseignait. Un jour, quand elle parlait de ses soucis à une collègue, celle-ci lui dit, au bout du Grand Lac, dans la région voisine, vit une sage. Tu peux peut-être t'adresser à elle pour trouver une solution à tes problèmes. On dit qu'elle est gentille et compétente. Elle a déjà trouvé des solutions dans d'autres situations difficiles. Essaye de t'adresser à elle. L'enseignante se mit donc en route et voyager jusqu'au bout du Grand Lac. Elle avait demandé un rendez-vous à la sage, et à son grand étonnement, celle-ci lui avait accordé le rendez-vous tout de suite. Ceci était peut-être dû au fait qu'on n'écoute pas les prophètes dans leur propre pays. En tout cas, visiblement, cette sage avait du temps à disposition, et en plus, elle semblait vraiment s'intéresser à la question. L'enseignante et la sage se rencontrèrent un beau matin dans un café, sous un soleil étincelant, au bord du Grand Lac. L'enseignante exposa sa situation à la sage, qui l'écoutait avec patience et empathie. De temps à autre, elle soupira, car elle connaissait beaucoup d'histoires de ce genre. Elles se ressemblaient toutes. Peu de motivation, élèves passifs, beaucoup de lectures littéraires. Alors, à la fin du récit, la sage fit une proposition très surprenante pour que l'enseignante résolve une partie de son problème. Elle lui dit « As-tu déjà essayé la poésie avec cette classe ?»« Non, pourquoi ?»« Parce que je crois que ça vaut la peine. »« Ah bon ? Avec des garçons qui n'aiment pas l'allemand ?»« Mais oui, surtout avec des garçons qui n'aiment pas l'allemand. » »« Tu penses à quel genre de poésie ?»« À la poésie d'amour. » La stupéfaction de l'enseignante fut encore plus grande. La poésie d'amour ? Quelle idée ! Et pourquoi ? L'enseignante s'attendait à une explication didactique détaillée, complexe et difficile à comprendre. Son étonnement fut d'autant plus grand que la sage répondait très simplement « parce que tout le monde vit un jour l'amour. Et parce que c'est court, parce que c'est beau, et parce que j'aime ça. Bien sûr, elle aurait été capable de donner des explications dans un jargon plus adapté à son statut de sage. Elle aurait pu parler de la pertinence de l'utilisation de documents authentiques dans l'enseignement d'une langue étrangère. Elle aurait pu défendre qu'on pourrait facilement entraîner les quatre compétences. Elle aurait pu louer la possibilité d'une approche interculturelle ou d'histoire littéraire avec les élèves. Elle aurait pu défendre l'idée de redondance potentielle qui ancre les apprentissages dans le mémoire. Et bien sûr, elle aurait pu évoquer l'approche par tâche qui rendrait les élèves actifs. Mais la sage se contentait de ces quatre éléments. Parce que tout le monde vit un jour l'amour, parce que c'est court, parce que c'est beau, et parce que j'aime ça. L'enseignante se disait à l'intérieur d'elle-même qu'il fallait peu pour être appelée une sage, mais elle ne laissait pas transparaître son scepticisme. Elle se disait qu'elle avait de toute manière peu à perdre et que ça valait le coup d'essayer. Elle disait à la sage, « Je suis d'accord d'essayer de lire des poèmes d'amour avec ma classe en allemand. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que tu m'aideras à concevoir des séquences ?»« Bien sûr, c'est la sage, mais à une condition. Je t'autorise à venir me voir à 3 reprises pour me demander conseil, pas plus. » »« 3 reprises? Pourquoi 3 ?»« Parce que dans les contes de fées, c'est souvent 3, » répondit la sage. « D'accord, » disait l'enseignante. « Ne t'inquiète pas, » disait la sage, « cette première rencontre ne compte pas. C'est comme chez les psys, tu as le droit de savoir à qui tu as affaire avant de t'engager. » Il te reste donc 3 vraies rencontres. Et maintenant, je te donne un devoir. Rentre chez toi, lis et feuillette des anthologies et sélectionne les poèmes d'amour que tu veux traiter en classe. Et la prochaine fois, quand on se voit, on va discuter de la suite. L'enseignante rentra chez elle et fit ce que la sage lui avait dit de faire. Elle plongea dans des livres qui avaient des titres comme Die schönsten deutschen Liebesgedichte, Liebesgedichte der Gegenwart ou encore die besten deutschen Gedichte. À part les anthologies, elle feuilleta les recueils de poèmes des plus grands auteurs allemands comme Goethe, Schiller, Brentano, Heine, Droste-Hülshoff, Rilke, Brecht, Laska, Schüler, Fried, pour n'en nommer que quelques-uns. Et son plaisir de lire et de relire ces textes et de les faire résonner en elle fut très grand. Mais il était difficile d'en choisir quelques-uns. Et il était encore plus difficile d'en choisir des poèmes en pensant à sa classe. Mais après une recherche de quelques jours, l'enseignante avait choisi intuitivement 30 de textes. Certains rédigés dans l'euphorie du sentiment amoureux, d'autres transmettant le goût amer des adieux, certains dans un langage riche en figures stylistiques, d'autres sobres et dépouillés, certains plus anciens et d'autres récents, certains rédigés par des hommes et d'autres sortis des plumes féminines, certains s'adressant à des personnes et d'autres parlant d'une région ou d'un pays, certains très intimes, d'autres proposant des réflexions presque universelles. Considérant que ses devoirs étaient faits, l'enseignante retourna voir la sage pour leur première vraie rencontre. Elle lui montra les textes sélectionnés. La sage les regardait soigneusement. « Tu as fait un bon choix. » disait-elle. Et maintenant, que comptes-tu faire ? L'enseignant lui dit, je ne sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais transmettre à mes élèves ce sentiment de beauté qui m'a envahi en lisant ces poèmes. Tu ne peux pas transmettre ton sentiment de beauté, disait la sage. Mais tu peux transformer tes élèves en des vrais lecteurs qui entrent en dialogue avec le texte poétique et qui en parlent avec leurs propres mots et leurs propres tripes. Ils ont si peu de mots en allemand, soupira l'enseignante. Alors, il faut leur en donner. Il faut créer des situations d'apprentissage où ils veulent, ou même ils doivent, parler ou écrire. Je t'aiderai, c'est clair. Et connaissant les contraintes du système scolaire qui prépare au grand examen final, elle pose une question très pertinente, comme d'ailleurs cela se doit pour une sage. Combien de temps as-tu à disposition ? Maximum 5 semaines, épreuves incluses, disait l'enseignante. C'est déjà beaucoup, répondit la sage. Alors je te fais la proposition suivante. La première semaine sera consacrée à une entrée en matière. Ensuite, Les poèmes seront regroupés selon trois thèmes. Et tu traiteras chaque thème pendant une semaine. Le thème numéro 1, c'est Verliebt, amoureux. Thème numéro 2, Aus, Schluss, vorbei, fini. Thème numéro 3, Réflexion über die Liebe, réflexion sur l'amour. Et la dernière semaine, il y aura l'épreuve, inévitable étape vers le grand examen final. Cela te semble pertinent? L'enseignante n'osa pas tellement contredire. Même si elle trouvait qu'entre le moment où on abordait le début de l'amour et sa fin, il y avait très peu de temps. Et même si elle avait peut-être envisagé un angle très différent pour parler de ses poèmes. Mais elle se disait que la sage devait mériter son statut et qu'elle allait suivre son conseil. En plus, elle ne pouvait qu'approuver l'idée que chaque amour a un début, et hélas, presque tous ont une fin, et que cela donnait à réfléchir depuis longtemps. La structure lui semblait donc pertinente, adaptée au contenu, également au texte qu'elle avait choisi, mais aussi à sa classe, qui serait certainement réceptive à ce genre de raisonnement très terre à terre. Restait alors la question de l'entrée en matière. L'enseignant posa la question à la sage. « Comment penses-tu commencer la séquence ?»« Par le début, » répondit la sage. « Quel début ?»« Ben, le début de l'amour. » « Et c'est quoi le début de l'amour ?»« Réfléchis, » dit la sage. Et il y avait un bref silence. « La rencontre ?»« Mais oui, la rencontre. » »« La rencontre entre deux personnes, mais aussi la rencontre entre un premier poème d'amour et les élèves lecteurs. »« Et qu'est-ce que je fais avec tout cela ?» demanda l'enseignante. « C'est toi la prof, » répondit la sage. « Mais avant que tu quittes, je te donne encore un conseil qui est à retenir durant tout le cycle. Ne pose jamais des questions personnelles aux élèves sur leurs vrais amours. Cela leur appartient. » Et ainsi se termina leur première entrevue. L'enseignante profita du voyage de retour pour s'inspirer des beaux paysages entre les deux bouts du lac à la recherche d'une idée pour ouvrir le cycle d'apprentissage sur les poèmes d'amour en concevant des activités autour du thème de la rencontre. Elle pense à ses élèves, à leur vraie vie, à ce que eux ou de jeunes Allemands de leur âge se poseraient comme question par rapport à une rencontre. Et soudain, elle eut une idée. Et si on thématisait tout simplement « das erste Date », ce serait intéressant de savoir quelles appréhensions ont les jeunes d'aujourd'hui, quels conseils ils donneraient pour ce moment clé entre eux. Et bien sûr, sur Internet, elle trouva une vidéo d'un blogueur allemand, Jonas, qui parle de son premier rendez-vous complètement raté avec une fille qui l'intéresse et qui demande des conseils à ses pairs. Les élèves pourraient rédiger ces conseils et les présenter. Et voilà qu'elle s'attela à concevoir la première tâche pour les élèves. Ils devaient donner un conseil pour un premier rendez-vous. Et elle leur mettait à disposition, comme la sage l'avait dit, des mots pour donner des conseils. Et en plus, elle les obligeait à les utiliser. Lors de la réalisation en classe, les élèves s'appliquèrent comme rarement. Toutes leurs affiches avec des conseils furent photographiées. Et ils étaient contents de lire les conseils de leur père, bien évidemment avec des critères d'évaluation, nous sommes à l'école. De plus, le fait d'insister particulièrement sur les moments de la Begrüßung et Abschied permettait d'introduire le premier vrai poème d'amour, Willkommen und Abschied de Goethe, un monument de l'histoire littéraire allemande du Sturm und Drang, rédigé en 1770. Mais l'enseignante avait bien compris les conseils de la sage. Il ne s'agissait pas de présenter des monuments littéraires pour les contempler, il s'agissait de les faire résonner dans leur lecteur adolescent. Après avoir donc travaillé la compréhension du poème avec, à l'exemple d'un montage fait par d'autres élèves en Allemagne et à l'exemple d'un extrait de film, ça c'est les critères d'évaluation, pardon. Vous pouvez lancer ce film ou c'est juste... Ok. Là, vous voyez le jeune Goethe.
avec son amoureuse.
Ich sah dich und die milde Freude floss aus dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite und jeder Atemzug für dich.
Ensuite, les élèves devaient transposer cette situation en 2017. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui? Où est-ce que les gens pourraient se rencontrer? On n'aurait plus besoin peut-être d'une rencontre nocturne secrète, mais autre chose. Et les élèves pouvaient donner très librement leur opinion par rapport à ce poème en utilisant des mots qui s'utilisent en vrai allemand parlé, comme « mega out ». Et voilà la première rencontre entre les élèves et la poésie d'amour, c'était pour finir très bien déroulée. L'enseignante devenait de plus en plus confiante et attaqua rapidement le premier thème, « Verliebt ». Elle fixa tous les objectifs d'apprentissage et fut très heureuse de voir que son enseignement était « hot », c'est-à-dire qu'elle exigeait des « higher order thinking skills ». Dans les poèmes qu'elle avait sélectionné en amont, 8 parlaient d'un amour naissant ou du sentiment amoureux. Le plus ancien était rédigé en 1795 par Goethe, le plus récent en 1950 par Brecht. Un poème de Brecht était pris comme exemple. Les autres 7 étaient travaillés en groupe et les élèves se devaient présenter mutuellement leurs poèmes en respectant un schéma préétabli. L'enseignante pensait au grand examen final et demandait comme tâche finale aux élèves une interprétation plutôt conventionnelle des poèmes, enregistrée cette fois pour permettre un retour formatif détaillé de sa part. Tous les élèves ont enregistré leur interprétation et elle était un peu nerveuse. Est-ce qu'ils joueraient le jeu? Alors, elle a trouvé l'expérience si concluante qu'elle décida de retourner voir la sage pour partager simplement ce qu'elle avait vécu jusque-là en classe. Parce que si on montre aux sages que leurs conseils furent écoutés, on se sent presque aussi sage qu'eux, et c'est toujours agréable. Il y a des témoins qui rapportent que les deux femmes écoutaient, avec une grande émotion et joie, les productions des élèves. Si on a le temps après, on va écouter.
Allô,
ok, juste le début. Ok. Bon. Non, c'est bon, on peut l'écouter après. L'enseignante profita de cette deuxième rencontre pour planifier la suite. Il fallait concevoir encore les leçons sur Aus, Schluss, vorbei, mais aussi sur les réflexions über die Liebe. Pour Aus, Schluss, vorbei, la sage proposait d'intégrer les mythes et de travailler la compréhension détaillée à l'aide de dictionnaires en ligne ou de Google Translation. L'enseignante était surprise, mais accepta la proposition. La médiation par rapport à un texte poétique présentait selon elle une belle occasion d'évaluer le potentiel, mais surtout les limites des outils informatiques. Selon la sage, oui, ça c'est les consignes. Selon la sage, il serait intéressant de demander ensuite un travail de transfert. Les élèves devraient rédiger un texte retraçant à la première personne l'histoire du couple, en nommant les sentiments du ou de la protagoniste, en racontant comment l'amour avait commencé et ce qui l'avait brisé. Selon la sage, il vaudrait mieux terminer ce texte de transfert
sur une note positive en disant ce qu'on pourrait faire pour surmonter le chagrin d'amour. L'enseignante était d'accord. Quand elle partait, la sage lui disait encore « N'oublie pas de leur donner un exemple. Le modeling aide toujours. » Et ainsi se termina leur deuxième rencontre. De retour chez elle, l'enseignante planifia toutes les leçons qui manquaient. Les supports pour Anschluss vorbei étaient vite faits. Elle avait pris goût à cette manière de travailler, libre, sans moyens d'enseignement, en dialogue avec sa classe, en se basant sur des poèmes d'amour, mais en demandant des tâches pertinentes permettant de développer les compétences langagières des élèves. C'était énormément de travail, mais un travail qui faisait sens. Ce fut donc un plaisir pour elle de se lancer dans le dernier thème, « Réflexion über die Liebe ». La sage ne lui avait pas donné de conseils précis, mais les sages sentent qui a besoin de leur sagesse et qui pas ou plus. L'enseignant tenta un travail créatif sur la base d'un autre monument littéraire, le poème « Was es ist » de Erich Fried.
Was es ist? Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Pour finir, le dernier texte que les élèves devaient rendre traitait de ce qu'ils aient... Non, pardon. Comme touche finale, l'enseignante choisit deux... L'enseignant tenta un travail créatif sur la base d'un autre monument littéraire. Les élèves devaient rédiger leur propre version du poème. Et comme touche finale, l'enseignante choisit deux chansons de groupes archi-connus allemands qui avaient comme thème l'amour ambigu pour une patrie difficile, l'Allemagne. Les deux chansons citaient des poèmes très célèbres, tout en intégrant leurs paroles dans une vision moderne, riche et contrastée d'un pays qui est tout cela à la fois. Pour finir, le dernier texte que les élèves devaient rendre traitait de ce qu'ils aimaient dans leur pays et ce qu'ils trouvaient plus critiquable. L'évaluation consistait à comprendre un poème, l'analyser et rédiger un texte personnel. Malgré les contraintes de l'examen final, l'enseignante se sentait confiante. Les élèves avaient travaillé de manière motivée, ils avaient vu, lu et commenté des poèmes de plusieurs époques littéraires. Ils avaient été actifs, étaient pris en considération comme des vrais lecteurs, et ils avaient appris à s'exprimer par écrit et par oral sur des situations concrètes de vie. En plus, ils avaient reçu de précieux conseils pour réussir un premier rendez-vous. Le grand écart qui soi-disant existait entre l'apprentissage de la langue et l'enseignement de la culture semble du coup ridiculement petit, ou plutôt artificiellement maintenu en vie. Elle avait vécu que chaque texte, aussi poétique qu'il soit, pouvait devenir un prétexte à la communication ou à une bulle créative dans la vraie vie dont l'école fait partie. Et que cela marchait. La fin de l'histoire est vite racontée. L'enseignante renonça à sa troisième rencontre avec la sage. Elle appela pour lui dire qu'elle ne viendrait plus au bout du Grand Lac. La sage n'avait aucun problème avec cela. Cependant, elle voulait que l'enseignante réponde à une seule question. « Comment as-tu trouvé l'expérience pour finir ?» demanda la sage. L'enseignante lui rétorqua « J'ai trouvé cela court, j'ai trouvé cela beau et j'ai aimé cela. » La sage sourit. « Merci pour votre écoute. »